voudrais vous raconter l'histoire du sens critique, ou plutôt l'histoire d'un jeune garçon. Il commence par penser ce qu'on pense dans sa famille, dans son milieu. Puis il pense comme on pense dans son groupe d'amis. Il a 15 ans. Et dans chaque cellule de son sang, tout ce qu'il y a en lui d'adolescent lui crie de penser comme les autres, de suivre ce petit troupeau qui l'a accueilli. Il faut bien appartenir. Il fait tellement plus chaud à l'intérieur du groupe qu'au dehors. C'est l'année de ses 16 ans que tout change. Une découverte, une rencontre, un professeur de philosophie. L'opinion est du genre du cri. Voilà ce que leur dit ce prof de philo. Et il imite le cri de la mouette en se mettant à sauter sur l'estrade, ce qui est une très bonne façon de commencer l'année. Que voulait dire Platon en affirmant que l'opinion est du genre du cri ? Qu'une opinion non réfléchie, non questionnée, est pareille au cri d'une mouette. Elle colle au corps, exprime la manière dont nous sommes déterminés, incapables donc de liberté. L'opinion est du genre du cri. En elle, nous ne pensons pas, mais crions la manière dont notre enracinement familial, social, économique nous détermine à penser ce que nous pensons. Vous allez arrêter de crier, reprend le prof de philo, arrêter de vous sentir libre là même où vous êtes déterminé. Vos semelles vont se décoller, s'arracher à la glu du social. C'est ça, la liberté de penser, c'est ce décollage, c'est cet arrachement. La philosophie, c'est apprendre à penser par soi-même. Mais bien sûr, il faudra apprendre les pensées des autres, apprendre à penser aussi contre soi pour savoir ce que l'on pense. Toute philosophie devrait être en même temps une psychanalyse. Je pense ça, mais pourquoi ? Est-ce vraiment ma pensée ? Il a des étoiles dans les yeux, notre garçon de 16 ans. Quelque chose de chaud, de beau, monte dans sa poitrine. Et cette fois, ce n'est plus ce réconfort d'appartenir. C'est ce désir de devenir. Devenir singulier, autonome, critique. Je pense, donc je suis. C'est quand même un peu mieux que je suis, du verbe suivre, donc je suis. Par ma pensée, je fais un pas de côté. Je peux sortir du troupeau, argumenter, rebondir, critiquer. Critiquer même le prof. Et surtout, me critiquer moi-même. Par ma pensée, j'arrête de coller à la mode, au groupe, à la pub, au système. Je décolle, je m'envole. Mais pas comme la mouette dont parlait Platon, comme ce sujet humain enfin capable de déployer les ailes de sa liberté. Je ne crie plus, et dans ce beau silence, enfin, je pense. Mais est-ce vraiment possible ? Jusqu'où peut-on apprendre à penser ? Pour en parler ce matin, j'ai la grande joie de recevoir Albert Moukébert, qui est à la fois docteur en neurosciences et psychologue clinicien, et qui nous a rejoint dans la caverne de France Inter, sous le soleil de Platon, pour nous aider à démasquer nos biais cognitifs, la manière dont se forment nos opinions, pour nous aider peut-être à apprendre à penser.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Albert Moukébert, bonjour.
Bonjour.
Quelle joie de vous recevoir. Donc, comme je l'ai dit, vous êtes docteur en neurosciences, psychologue clinicien, fondateur d'un laboratoire Chiasma, où il s'agit justement de débusquer les biais cognitifs. Vous avez sorti chez Alary Éditions un livre qui parle exactement de notre sujet et qui porte pour titre « Votre cerveau vous joue des tours ». Alors, je vais commencer par être un peu cash. Est-ce que vous pensez que c'est possible de s'en sortir, au fond, de tous ces biais et d'apprendre à penser correctement ?
Bonjour. Je pense pas que c'est possible de s'en sortir parce que nos biais sont une sorte de fonction de notre cerveau. On les présente souvent comme une sorte de tare qu'il faut éviter. Alors que c'est vraiment une sorte de fonctionnement normal au final de notre cerveau. Donc, s'en sortir de ne pas avoir de biais, non. Par contre, apprendre à mieux penser, ça, on pense que c'est possible. En tout cas, dans nos recherches, il y a certaines lueurs d'espoir.
Alors, est-ce que par exemple, on pourrait prendre un exemple d'un biais cognitif qui est utile et un exemple d'un autre qui est vraiment trop handicapant.
On peut prendre le même, en fait, parce que en fait, les biais cognitifs dépendent du contexte. C'est-à-dire, souvent aussi, on pense aux biais cognitifs comme si chaque biais, un biais de sélection, un biais de confirmation, c'est automatiquement une mauvaise chose.
Pour que tout le monde comprenne
bien, c'est quoi, les biais.
Un biais cognitif, c'est une sorte de raisonnement automatique dont on ne se rend pas compte et qui nous empêche de penser correctement.
Alors, c'est une sorte de raccourci de notre pensée pour plusieurs raisons, parce qu'on a des ressources attentionnelles et cognitives qui sont limitées, et donc on fait ce qu'on appelle des heuristiques, des sortes d'approximations qui souvent marchent relativement bien. Et ces heuristiques, par moments, marchent un peu moins bien, et pour certains chercheurs, on appelle ça des biais. Et encore une fois, ces biais dépendent de la rencontre d'une personne et de son contexte. Un exemple tout simple, l'optimisme. L'optimisme, on considère que c'est une bonne chose. On a tendance à vouloir être optimiste. Mais dans certains contextes, l'optimisme devient ce qu'on appelle un biais d'optimisme. Et un biais d'optimisme, c'est un biais cognitif quand je suis trop optimiste alors que je devrais pas l'être. Par exemple, je suis au casino. Je mise des sous sur le rouge, le noir tombe, j'ai un biais d'optimisme, je me dis, mais non, la prochaine fois, je vais sûrement gagner, je remise tout, puis je perds, je me dis, mais non, je dois être optimiste, donc j'ai des biais d'optimisme. C'est la rencontre entre le contexte et ces raccourcis de ma pensée, parce qu'en gros, mon cerveau est tout le temps en train d'essayer de prédire qu'est-ce qui va se passer et d'adapter mon comportement à ça, et donc dans ces prédictions, des fois, je peux me tromper. Du coup, ces biais peuvent être très utiles dans certaines situations. Dans ce cas-là, par définition, c'est pas des biais. Et dans d'autres, ce même fonctionnement, ces mêmes heuristiques, ces mêmes raccourcis peuvent nous nuire. Comme par exemple, être optimiste dans la vie, ça peut être positif. Être optimiste dans un casino peut être un peu moins bon.
Prenons l'exemple de la dissonance cognitive. Ça veut dire quoi ?
Alors, la dissonance cognitive, c'est quand j'ai une contradiction entre soit deux pensées, genre je crois quelque chose et j'ai une information qui vient la contredire, entre une pensée et un comportement, j'ai un comportement qui va à l'encontre de ma pensée, ou entre une émotion et une pensée, quand il y a une sorte de contradiction, une dissonance qui appelle une résolution. Donc à chaque fois qu'on est dans une dissonance, on a besoin de la résoudre. Par exemple, une dissonance cognitive toute banale, imaginez quelqu'un qui est fumeur et qui sait que fumer tue. C'est une dissonance. Il faut la résoudre. Du coup, je peux la résoudre de plusieurs manières. Je peux soit arrêter de fumer, je retrouve une consonance, je change mon comportement. Je peux me dire, on va tous mourir un jour. Du coup, je vais pas m'empêcher de tous les plaisirs de la vie. De toute façon, tout nous tue. C'est pas cette clope qui va me tuer.
Mais ça, c'est une autre dissonance cognitive.
C'est une autre manière de résoudre la dissonance. La dissonance, c'est la même. Je suis en train de fumer et j'ai pas envie de mourir.
Voilà.
Comment je résous la dissonance? Il y a en général trois manières. Soit je change mon opinion, soit je change mon comportement, soit je change le sens que je donne. De toute façon, si je vis jusqu'à 75 ans au lieu de 80, c'est pas très très grave. Du coup, chaque dissonance appelle une résolution.
Quand j'ai 45 ans.
Quand j'ai 45 ans, exactement.
Alors, il y a un autre biais qui m'intéresse beaucoup, c'est le biais endogroupe. D'après ce que j'ai compris, c'est une manière d'être complètement influencé dans ses réponses par l'appartenance à un groupe.
Alors, il faut pas
oublier. Et ça, c'est très important pour les adolescents.
Il faut pas oublier qu'on est des animaux sociaux, Homo sapiens sapiens. Notre cognition sociale est une partie intégrante de notre fonctionnement. Et effectivement, il y a ce qu'on appelle des endogroupes et des exogroupes. Les groupes auxquels j'appartiens et les groupes que je considère sont extérieurs à moi. Et là aussi, c'est un fonctionnement qui peut être très sain. C'est ça qui permet une sorte de cohérence et de collaboration. Des fois, je vais vouloir m'homogénéiser avec mon groupe et du coup je vais suivre ce que le groupe me dit. Dans certains cas, on va prendre ça comme quelque chose de très négatif, un fonctionnement moutonnier.
Bien
on
sûr.
Va dire ah tu es en train de suivre à l'aveugle, etc. Mais dans d'autres, c'est très important de pouvoir suivre le groupe, sinon on peut jamais collaborer. Si on est 10 Homo sapiens et chacun veut y aller de son propre chef pour collaborer à faire n'importe quelle tâche, on va pas y arriver. Et du coup là aussi on retrouve cette notion que les biais peuvent, selon la tâche, la situation, le contexte, être quelque chose qui peut fédérer l'espèce humaine à pouvoir fonctionner, et dans d'autres, être assez handicapant, et effectivement, nous causer des problèmes.
Alors comment votre livre porte quand même pour titre « Votre cerveau vous joue des tours » ? Il y a peut-être deux sens,
ouais.
C'est dangereux, et en même temps, c'est quand même un tour de magie très utile, mais comment on sait dans quel cas on est finalement ?
Alors, c'est pour ça qu'on a choisi « Votre cerveau vous joue des tours », pas par exemple « Votre cerveau vous trompe ». On voulait vraiment avoir ce sens un peu ambigu de « Votre cerveau vous joue des tours », ça peut être un tour qui est pas très cool, et ça peut être un tour où notre cerveau nous aide à fonctionner. Et comment on peut savoir ? Malheureusement, l'incertitude, c'est quelque chose avec laquelle on devrait composer. Des fois, on peut pas savoir à l'avance. Je peux savoir soit si j'ai déjà vu une situation, apprendre de mes expériences passées. Je peux savoir, bah, justement, en déléguant aux autres, en questionnant à quelqu'un du groupe qui sait déjà. Je veux savoir par essai et erreur. Je ne sais pas, j'essaye, je me trompe ou j'ai bon, et puis je sais pour le futur. Mais il faut aussi accepter que des fois, je peux pas savoir et j'y vais quand même.
Mais si on prend comme exemple un autre biais, le biais d'attribution. Est-ce que vous pouvez nous montrer d'abord ce que c'est et comment on l'utilise de façon heureuse et comment il faut s'en méfier ?
Alors le biais d'attribution, le biais fondamental d'attribution, c'est quand c'est à quoi est-ce que j'attribue souvent le comportement de quelqu'un d'autre ? Versus comment est-ce que je m'attribue mes comportements. Il faut savoir que moi j'ai accès à mes propres intentions. J'ai accès à ma vie interne psychique. J'ai pas accès à la vôtre, par exemple. Si je vois quelqu'un faire quelque chose, souvent je vais juger les personnes sur leurs actions. Par exemple, je sais pas, il y a une queue à la poste et quelqu'un vient et coupe la queue. Je vais juger sur son action et je vais me dire c'est quoi son problème, pour qui il se prend. J'ai pas accès à ses intentions, mais peut-être que cette personne était passée ce matin et la personne qui bosse au bureau de poste lui a dit si tu reviens, tu coupes la queue, tu viens directement me voir. Inversement, un autre jour, il y a une queue et moi je viens et je coupe la queue. J'ai accès à mes intentions et je vais pas me dire je suis en train de couper la queue, je suis un salaud. Je dis, mais je me souviens, je sais pas, j'ai une urgence, c'est pas très grave, je veux juste acheter un timbre. Du coup, ces biais d'attribution, c'est à quoi est-ce que j'attribue le comportement de quelqu'un? Est-ce que je l'attribue et je lui trouve des excuses? Est-ce que je l'attribue sur juste la partie émergée de ce que je vois souvent son comportement? Ouais. Ou est-ce que je me juge de la même manière?
Mais c'est extrêmement difficile de se mettre à la place de l'autre, de toute façon. Finalement, ce que la philosophie nous a toujours dit, hein, c'est que c'est le plus dur, au fond, lorsque Platon nous dit « qui n'a jamais aimé ne peut philosopher », ça veut dire ça. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup aimer l'autre pour réussir à vivre cette expérience de l'altérité, à se mettre à sa place et à comprendre un peu comment il voit les choses. Et donc, dans le biais d'attribution au sens négatif, c'est quand on n'y arrive pas, et on va être un peu parano, par exemple, on voit dans le comportement de l'autre quelque chose de négatif, alors qu'en fait, on lui plaque des intentions qu'on n'a pas. Mais est-ce que vos études dans le laboratoire Chiasma, vos études de chercheurs, peuvent nous éclairer là-dessus sur comment on peut un peu mieux réussir à se mettre au fond dans la tête de l'autre?
Alors, tout dépend de l'autre, par exemple, parce que se mettre dans la tête de l'autre, c'est pas juste au niveau des comportements, ça peut être dans un débat. Par exemple, quand on fait un débat, il y a un principe qui s'appelle le principe de charité. Le principe de charité, c'est essayer de comprendre ce que l'autre dit de la manière dont il voudrait l'émettre. C'est l'opposé un peu de la mauvaise foi. Vous dites quelque chose et je prends la petite phrase, par exemple, et j'attaque dessus. Il y a plusieurs exercices de ce qu'on appelle de changement de point de vue, qu'on utilise souvent, par exemple, aussi en thérapie. Pas juste au niveau des débats ou au niveau de l'hygiène mentale, entre guillemets. Dans nos recherches, on ne sait pas encore si ces capacités sont transférables, c'est-à-dire je peux apprendre à mieux penser un certain sujet, on ne sait pas encore si ça nous aide à mieux penser d'autres. Du coup, ça remet un peu du plomb dans l'aile dans cette idée d'un raisonneur critique universel, qu'une personne peut bien penser tous les sujets. Je peux apprendre comment éviter des pièges, par exemple, dans, je sais pas comment je comprends Spinoza, mais ça va pas, peut-être pas m'éclairer à comprendre Heidegger, par exemple. Et du coup, c'est encore assez délicat, on ne sait même pas si c'est possible, de trouver une sorte de méthode universelle. D'ailleurs, c'est très important de se méfier de cette notion. Moi, ça fait maintenant, je ne sais pas, une quinzaine d'années que je travaille sur les biais cognitifs, j'ai autant de biais que les personnes qui nous écoutent.
Mais vous n'avez pas progressé, quoi.
Je ne pense pas particulièrement.
Mais peut-être que cette lucidité, c'est déjà ça qui est intéressant. En fait, de savoir qu'on n'est pas objectif.
De savoir que c'est pas vraiment possible. La métaphore que je donne, c'est comme un peu le jeu de Bonto. Je sais pas si vous voyez le jeu du Bonto qu'on voit dans les rues. Il faut trouver la petite boule sous trois.
Bien sûr.
J'aime beaucoup ce jeu.
Beaucoup d'argent auprès de la porte de Saint-Ouen avec ça.
Voilà. Du coup, je me suis énormément intéressé à ce jeu et je me suis tellement intéressé à ce jeu, j'ai tellement bien compris ses mécanismes que je sais qu'il faut pas jouer. C'est pas, j'ai tellement compris le jeu que je sais que je peux gagner. Au contraire, je sais qu'on peut pas gagner. C'est un peu la même chose au biais. Plus on les étudie, plus on comprend que ça fait partie de notre fonctionnement. Et c'est complètement une sorte de quête puérile de se dire, je vais ne plus avoir de biais. C'est au contraire, je vais avoir des biais. Et du coup, quels sont les mécanismes que je peux mettre en place pour me protéger de moi? Ça peut être ne pas avoir des opinions sur tout. Déléguer
mon
opinion à d'autres.
Être un peu sceptique.
Oui, surtout, avoir la lucidité que ce fonctionnement, on peut pas vraiment l'éviter, et du coup, savoir les limites de mon raisonnement, les limites de mes capacités cognitives.
Mais alors quand vous avez dit tout à l'heure, en fait, c'est très difficile de se mettre à la place de l'autre, moi, j'ai eu envie de me dire, peut-être il faudrait l'écouter, alors, tout simplement, ouais. Au lieu d'essayer de penser à sa place, l'écouter vraiment. Est-ce que c'est pas ça une solution?
Ouais, c'est un peu la rencontre.
Ouais.
Comme le titre de votre dernier livre.
Mais vous savez, Albert Moukhaber, vous avez parlé de thérapie, justement. Ouais. Et c'est un point important que je voulais aborder avec vous. Donc vous êtes aussi psychologue, et pas simplement chercheur, pas simplement animateur du laboratoire Chiasma. Alors, en quoi ça peut être une thérapie de travailler comme ça sur ces raisonnements? Parce que nous, on imagine, quand on connaît pas bien, que la thérapie, c'est soit la psychanalyse qui va vachement faire éclore l'inconscient par association libre, soit des thérapies qui travaillent beaucoup sur les affects et les émotions. Là, vous semblez évoquer un autre type de thérapie qui travaille en gros sur les raisonnements.
Absolument. Donc, il y a plusieurs types de thérapies qui travaillent sur le raisonnement. Il y a la thérapie probablement la plus connue, c'est la thérapie cognitive et comportementale. Donc, justement, on est en train de travailler les cognitions.
Ouais.
Donc on va voir comment est-ce qu'une personne réfléchit, qu'est-ce qu'elle se dit, ce dialogue interne. On a ce qu'on appelle nos pensées automatiques, ou cette petite voix avec laquelle on discute avec nous-mêmes, ce qu'on appelle les pensées sur nos pensées. Donc quand j'ai une pensée, qu'est-ce que je me dis? Et du coup, dans les thérapies cognitives et comportementales, je vais questionner
les pensées que je suis en train d'avoir. Par exemple, si je suis quelqu'un qui a pas confiance en lui, je dois faire quelque chose et j'ai une pensée automatique qui me dit « tu vas échouer, tu es nul ». Je vais avoir ce qu'on appelle une métacognition. Donc la métacognition, c'est les pensées que j'ai sur mes pensées. Donc cette petite voix avec laquelle on se parle, dont je parlais. Et on a ce qu'on appelle un contrôle métacognitif. Qu'est-ce que je vais me dire quand je vais avoir cette pensée automatique qui me vient en tête? Et du coup, je vais essayer de corriger ou en tout cas de nuancer ces pensées automatiques qui peuvent venir me saper selon les différentes troubles dont je peux souffrir. On a aussi ce qu'on appelle la psychoéducation.
Alors déjà, arrêtons-nous sur le premier point qui est très intéressant. Comment je fais pour corriger? Vous dites en séance comme ça, en thérapie, on va essayer de corriger, mais on fait comment concrètement?
Alors il y a plusieurs manières. Par exemple, on peut demander à la personne, disons que quelqu'un est déprimé. Et quand on est déprimé, on a souvent justement des biais de sélection, où on se rappelle plus des émotions, des événements négatifs, ou bien on fait des projections sur le futur que rien ne va aller. Et du coup, on va faire des analyses fonctionnelles. On va demander à la personne quelle est la situation à laquelle vous avez fait face. Quelles sont les pensées qui vous sont venues à l'esprit? Quelles sont les émotions que vous avez ressenties? Quel est le comportement que vous avez eu? Et après, on va essayer d'observer ces pensées. Par exemple, moi, j'ai fait ma thèse sur un trouble qui s'appelle la phobie sociale. C'est la peur de parler en public. Du coup, si j'étais phobique sociale, je suis en train de vous parler, je vous vois en train de me regarder et je me dis, je vois dans les yeux de Charles Pépin.
De l'agressivité.
Qu'il est en train, ou bien de me juger négativement, de se dire, j'aurais pas dû l'inviter, j'aurais dû inviter quelqu'un d'autre, il est vraiment nul. Et je vais vraiment y croire. Je vais me dire, je vois dans vos yeux que vous êtes en train de me juger négativement. En thérapie, on va essayer de travailler sur quoi est-ce que cette pensée automatique qui m'a, et du coup, comportementalement, je vais avoir une boule au ventre, émotionnellement, je vais être un peu stressé, je vais peut-être commencer à suer, avoir très très chaud. En thérapie, on va essayer de travailler comment nuancer ces pensées. Est-ce que je peux vraiment savoir quelque chose à partir d'un regard? Si j'étais pas phobique sociale, est-ce que dans ce regard, je verrais pas plutôt que vous êtes intéressé, par exemple?
Donc ça, c'est une thérapie qu'on appelle cognitiviste, comportementaliste, c'est ça?
Ouais. Et du coup, ça inclut aussi les émotions, même si c'est pas dans le titre. On a aussi ce qu'on appelle la psychoéducation. La psychoéducation, c'est expliquer à la personne comment fonctionne, ou bien son fonctionnement à lui, ou bien son fonctionnement par rapport aux difficultés qu'il pourrait avoir. Par exemple, en phobie sociale, on va faire de la psychoéducation, donc expliquer c'est quoi la phobie sociale, comment est-ce que ça fonctionne, quel est le pourcentage dans la population, quels sont les pièges les plus communs, etc. On va faire genre vraiment comme presque un cours de fac.
Alors ça, c'est très intéressant ce que vous racontez, la psychoéducation, ça trouble beaucoup le freudien que je suis. On va en parler après une petite pause musicale. Derrière sa fenêtre, C'était France Gall, Diego, libre dans sa tête.
France Inter, sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Albert Moukébert pour essayer de parler de la pensée, des biais cognitifs, et c'est un régal de vous écouter. Avant de reprendre ce que vous me disiez de très troublant sur la psychoéducation, je voudrais simplement vous faire réagir à cette chanson. Est-ce qu'on peut vraiment être comme Diego, libre dans sa tête?
Je pense que on est libre dans, quand même, dans certaines règles. C'est-à-dire, on peut être libre dans une marge de manœuvre. Mais on est tout le temps conditionné par notre environnement, nos déterminants, notre cerveau, notre fonctionnement. Donc, on est libre, mais peut-être pas complètement.
En fait, on peut être lucide sur ces conditionnements, mais ça va pas plus loin. L'ambition de la philosophie des Lumières, l'ambition d'une philosophie kantienne, par exemple, d'arriver vraiment à une liberté de pensée, au fond, à une autonomie de la pensée qui serait complètement arrachée à partir d'un certain moment aux déterminants sociaux, historiques, ça c'est pas possible selon vous?
En fait, ça serait rattaché à quoi? Parce que quand on a une pensée, notre pensée vient de nos a priori. Donc ça dépend de nos a priori. Peut-être que nos a priori, ce serait d'être complètement détaché de nos a priori. Mais quelque part, c'est un peu comme Ouroboros, comme le serpent qui se mange la queue. C'est-à-dire, on est en train de se détacher de ce dont on veut vouloir se détacher. Et du coup, on est tout le temps en train de tourner dans le même truc.
Mieux vaut accepter, finalement, qu'on est dedans, quoi.
Il y a tout un questionnement sur est-ce que le cerveau est capable de nouveauté. Et ça ouvre tout un champ. C'est pour ça que dans les sciences cognitives, on a tout un pan de philosophie, justement. On travaille beaucoup avec les philosophes sur la créativité, la nouveauté, l'expérience subjective de la réalité, etc. Est-ce qu'on est capable du neuf? Et c'est des questionnements où il n'y a pas vraiment une réponse tranchée. On voit souvent la science comme quelque chose qui répond genre de manière claire, mais c'est pas vrai. La science est souvent aussi très très diffuse et on ne sait pas. Le libre arbitre, l'émergence de la conscience, l'expérience subjective de vie. Il y a un problème que je recommande à tout le monde d'aller lire qui s'appelle le problème difficile de la conscience et qui questionne. Pour l'anecdote, je pense que ça va vous plaire. Quand on a commencé les neurosciences, on se disait que les trucs les plus durs à comprendre seraient comment est-ce qu'on voit, comment est-ce qu'on entend, comment est-ce qu'on ressent une émotion, etc. Et quand on a commencé à étudier le cerveau, ces trucs étaient assez faciles. Par exemple, on sait relativement bien comment fonctionne le cortex moteur, le cortex visuel, le cortex cognitif. Et ce qui nous échappe énormément s'appelle les qualia. Les qualia ou la qualia, c'est une expérience subjective, comme par exemple la Madeleine de Proust. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un quand il mange une Madeleine qui lui rappelle une émotion de son enfance? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui voit un coucher du soleil et qui lui apporte une expérience d'émoi? Qu'est-ce qui se passe quand on est face à la beauté de la nature?
Eh bien oui, c'est une bonne question.
Et ça, on n'y arrive pas du tout encore à comprendre, alors qu'on pourrait se dire que ça c'est plus simple. Et du coup, ces expériences subjectives font un problème qui s'appelle le problème difficile de la conscience, et on est encore pas.
Mais
pas,
j'adore
pas
ce que vous dites. En fait, vous êtes chercheur en neurosciences et l'essentiel résiste. Au fond, ce mystère de la contemplation esthétique, ce mystère de la réminiscence, finalement, vous n'avez pas grand chose à en dire. Mais quand je vous dis ça, c'est pas une critique. Hein. C'est bien aussi que le mystère demeure, non?
Ah, mais on est très content de ça. En tant que chercheur, encore une fois, on est bien content quand on cherche.
Quand ça résiste, quoi.
Quand on trouve, c'est. Et du coup, ce problème difficile de la conscience, il y a même des chercheurs qui pensent qu'on ne pourrait jamais le résoudre, parce que c'est une expérience qui est hyper personnelle, et quand on fait des recherches, on a besoin d'un échantillon, comme on dit. Et du coup, trois personnes qui regardent un coucher de soleil ne vont pas avoir les mêmes activations du cerveau, parce que c'est une expérience, c'est une qualia tellement unique.
Unique, et en même temps, il y a quand même une sorte d'invariant. Notamment l'invariant dont parlait Kant en disant que, quelle que soit notre culture, malgré la relativité des situations, chaque personne, à l'heure de cette émotion esthétique, à l'heure de dire c'est beau, a quand même une espèce de mouvement qui part d'elle-même pour aller vers les autres et vers un éventuel accord, un éventuel assentiment. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit c'est beau, et non pas moi je trouve ça beau, moi qui ai 48 ans et qui ai grandi en Bourgogne. Donc cet invariant, quand même, vous n'avez rien à nous en dire?
Si, on sait à peu près. J'aime pas trop parler des activations cérébrales, etc., parce que je trouve qu'on les met trop en avant. Je pense qu'on en parlera, la sérotonine, le striatum, etc., comme si c'est une vision très mécanistique et réductrice, je pense, du fonctionnement de notre cerveau. Donc on peut savoir à peu près quels sont les circuits impliqués, etc., mais ça nous dit rien, encore une fois, sur
qu'est-ce que cette personne est vraiment en train de ressentir? Est-ce qu'on peut vraiment voir ça dans un IRM fonctionnel, etc. L'expérience de pensée, j'aime beaucoup les expériences de pensée qui décrit cette expérience, c'est imaginer une personne qui est dans un laboratoire qui étudie les couleurs. Mais elle vit dans un monde en noir et blanc. Mais elle comprend tout sur les couleurs. Elle sait comment ça fonctionne dans le cerveau, c'est quoi les lois, c'est quoi l'onde, la fréquence de l'onde visuelle qui est en train de toucher la rétine. Elle comprend tout ce qu'il y a sur les couleurs, elle le comprend, mais elle a jamais vu de couleur de sa vie. Jamais. Du coup, un jour, elle sort de son laboratoire et elle arrive dans un monde coloré. Est-ce que quand elle aperçoit une couleur pour la première fois, est-ce qu'elle apprend quelque chose de nouveau? Et ça, c'est tout ça le problème de la conscience. C'est-à-dire quelqu'un qui comprend parfaitement l'équilibre, comment marche un vélo, tout l'inertie, il a vu tous les stades, tous les Tours de France, tous les vélos qui existent, etc. Est-ce qu'il apprend quelque chose de nouveau quand il monte sur un vélo pour la première fois? Et cette expérience subjective, phénoménologique presque, de vivre quelque chose, on ne sait pas encore trop comment la mesurer. Et
alors
effectivement, c'est très bien.
C'est très beau. Moi, j'aime bien cette idée de tout ce qui échappe à la mesure, à la quantification. Et pourtant, je reviens à ce que vous disiez avant, en tant que thérapeute, et par rapport aux thérapies, vous évoquez la psychoéducation. Là, on est plutôt de l'autre côté. C'est-à-dire le fait d'expliquer aux patients qu'il y a des choses qu'on comprend, pour le coup, des mécanismes qu'on a repérés, et que peut-être ça pourrait l'aider de repérer un mécanisme dont il souffre, par exemple la phobie sociale. Et dans ce cas-là, moi j'ai une question que j'avais devinée tout à l'heure. Le freudien que je suis se dit plutôt que ce qui va me faire aller mieux, c'est pas tellement de comprendre intellectuellement ce qui m'arrive, mais que quelque chose d'inconscient soit libéré, qu'un conflit intérieur soit dénoué, ou même qu'il y ait quelque chose de l'ordre de l'affect qui se passe. Là, vous semblez dire que parfois en thérapie, ça peut suffire de comprendre, en fait.
Oui, mais en sachant que comprendre, c'est pas juste comprendre intellectuellement, on peut comprendre émotionnellement, on peut comprendre intuitivement, mais c'est effectivement apprendre un peu ce tronc commun. Quand on dit quelqu'un, je sais pas, une dépression, il y a la partie qui est unique à la personne, donc le patient dans son unicité qui est chez moi, mais il y a aussi l'étiquette, ce que ça veut dire une dépression, avoir des affects négatifs, être d'humeur relativement triste, avoir une énergie qui est baissée, avoir envie de dormir, de manger moins, etc., ou manger plus, selon les types, etc. Du coup, apprendre à quelqu'un comment ça marche, déjà savoir que c'est pas quelque chose qu'on ne sait pas, que c'est quelque chose qu'on comprend, surtout pour certains troubles où la personne ignore l'existence de troubles, quand
mais
tu commences à
rassurer.
Ça peut rassurer, etc. Et encore une fois, l'apprentissage peut se faire d'un point de vue émotionnel, peut se faire d'un point de vue intuitif, savoir qu'il y a d'autres personnes qui ont la même chose, et ça, ça existe depuis très longtemps. Je sais pas, par exemple, les alcooliques anonymes, c'est une fonction thérapeutique où des personnes qui ont juste le même vécu, se posent entre eux sans nécessairement la présence d'un professionnel de la santé, etc. Et le simple fait de partager des expériences, et on fait ça depuis la nuit des temps, peut avoir une vertu thérapeutique. Et donc effectivement, on pense que expliquer et faire confiance à l'intelligence émotionnelle, cognitive, intuitive de la personne qui vient chez nous au cabinet peut des fois être suffisante pour que cette personne puisse dénouer ces histoires que leur cerveau leur raconte et qui leur apporte de la souffrance, parce qu'au final, aller mal ou aller bien, etc., ça, tout dépend de qu'est-ce que je me dis dans ma tête, que ça soit dans la psychanalyse, en n'importe quoi. Quel est le récit que je me raconte sur moi-même? Et la thérapie, au final, c'est changer ce récit.
Ouais, c'est vrai.
Et comment est-ce qu'on arrive à changer ce récit? Il y a plusieurs manières, et effectivement, moi j'utilise plutôt la psychoéducation, des thérapies cognitives et comportementales, l'approche translationnelle, voir qu'est-ce qui se passe en recherche, et faire des allers-retours entre la recherche et la clinique. Et des fois même des choses philosophiques, la thérapie par exemple existentielle, sur l'existentialisme, les angoisses de mort, conseiller à quelqu'un de lire Marc Aurèle, de lire Sénèque, de lire Hermann Hesse,
oui.
Peut être de...
Donc ce que vous appelez en fait psychoéducation, c'est un peu de faire de la pédagogie et d'expliquer aux patients qu'ils souffrent de ça, que ça correspond à ça, que ça se traduit par ça, etc. Alors du coup, on a l'impression que cette méthode, elle pourrait aussi beaucoup nous aider par rapport aux fake news, aux infox. Et je crois que vous travaillez beaucoup là-dessus. D'ailleurs, je crois que vous êtes un référent du CSA sur cette question. Est-ce que vous pouvez nous donner des choses peut-être utiles dans le rapport aux fake news qui viennent de votre connaissance du cerveau et de ce que vous étudiez dans le laboratoire Chiasma?
Alors, déjà, une personne qui croit à une fake news considère que la news n'est pas fake. Donc, quand on considère qu'une news est fake, c'est qu'on a déjà résolu le problème. On sait que c'est pas vrai. La première chose, c'est de ne pas croire qu'une nouvelle peut être vraie ou fausse à 100%. Des fois, il y a des informations qui sont mitigées, qui peuvent être vraies à 50%, à 60%, qui peuvent être incertaines. Je dirais, la première chose, c'est est-ce que j'ai besoin d'avoir une opinion sur ce sujet? Je pense qu'aujourd'hui, on a des sortes d'injonctions de devoir avoir des opinions sur plein de sujets. On l'a vu avec le Covid, les personnes dans des dîners de famille en sont presque venues aux mains à cause de est-ce que l'hydroxychloroquine fonctionne pour traiter le Covid, alors qu'ils sont pas médecins, ils vont jamais être dans une situation où il faut qu'ils prescrivent un médicament ou pas. Du coup, est-ce que j'ai besoin d'avoir une opinion sur le sujet? La deuxième chose, c'est surtout de ne pas croire qu'on peut, et ça peut-être ça va surprendre, mais il faut pas penser par soi-même, quelque part. Penser par soi-même, c'est un peu complètement absurde. Quand quelqu'un vous dit de penser par vous-même, ne soyez pas des moutons, pensez par vous-même, en gros, ils sont en train de vous dire implicitement, faites-moi confiance. Et ça, c'est quelque part dangereux. Je peux pas penser par moi-même de sujets très techniques où j'ai pas de bagage pour pouvoir évaluer si c'est bien ou pas.
Je ne peux pas écouter mon intuition, par exemple.
Je peux pas écouter mon intuition quand c'est sur un sujet où j'ai pas de bagage intuitif. Je peux écouter mon intuition si, par exemple, je suis un saxophoniste virtuose, je peux écouter mon intuition pour faire un solo de saxophone. Mais si j'écoute mon intuition alors que j'ai jamais tenu un saxophone et je me prends pour Louis Armstrong, je vais juste casser les oreilles à tout le monde. C'est un peu la même chose au niveau de notre raisonnement. Un médecin qui a fait 100 000 opérations et dans le bloc opératoire et son intuition lui dit de faire quelque chose, probablement c'est peut-être pas une mauvaise idée de l'écouter. Quelqu'un qui n'a jamais réfléchi à un sujet de physique quantique, qui se dit intuitivement, moi je me dis que l'opération de...
Et l'intuition féminine, alors?
C'est la même chose, c'est un peu malheureusement la même chose, l'intuition féminine, l'intuition masculine. On tourne un peu en rond, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis en train d'intuitiver et est-ce que je suis en train d'intuitiver quelque chose sur lequel j'ai de l'expérience?
Ce que vous nous dites, au fond, c'est que nous ne pouvons faire confiance à notre intuition que dans notre champ de compétences.
Un peu, oui.
Ouais. Ouais. Ça va pas plaire à tout le monde.
Non, ça va pas plaire à tout le monde.
Et surtout, cela dit, on peut aussi miser sur la chance, se dire que j'y connais rien, mais voilà.
Oui, bien sûr. Je suis dans une file, je suis un peu perdu. Je me dis intuitivement, je me dis c'est par là, c'est aller à gauche. Je peux y aller. Au pire, je suis encore plus paumé. Et au final, je vais retrouver mon chemin. Et l'errance peut être une bonne manière de faire des choses. Ça dépend qu'est-ce que je suis en train de risquer. Si je suis en train de transporter quelque chose de très important et je me risque à l'errance, ça va être peut-être problématique. Alors que si j'ai 6 heures devant moi et je suis en train de flâner dans une ville que je connais pas, ça peut être une bonne chose.
Ouais. Revenons aux fake news. Ouais. Donc vous commenciez par dire, d'abord, je suis pas obligé d'avoir une opinion sur tout, ouais. Et après ?
La deuxième, ne pas penser par moi-même, on est des animaux sociaux, et la question devient, pour moi qui est même presque plus intéressante, si je peux pas penser par moi-même, à qui est-ce que je délègue ma confiance ?
Ah oui. Cette
notion de
choisir
déléguer...
les bons autres.
Exactement, mais cette notion de déléguer, on l'a fait pour tout. Genre, là, on est dans un studio, ni moi, ni vous, on a construit les micros, ni le matériel sur lequel on est assis, ni les lumières, etc. On a délégué à d'autres humains qui ont la compétence de créer ces choses. C'est un peu la même chose au niveau de notre raisonnement, mais quand ça touche notre raisonnement, on veut plus déléguer. C'est comme si je délègue, je suis automatiquement un mouton, je suis automatiquement quelqu'un qui est manipulé par les médias, qui est manipulé par tel ou tel, alors que j'ai besoin de déléguer. La question devient, à qui est-ce que je délègue ? Est-ce que je délègue à une chaîne YouTube que j'aime beaucoup? Est-ce que je délègue à France Inter? Est-ce que je délègue à LCP? À qui est-ce que je délègue? Et en général, une bonne idée, c'est de ne pas déléguer tout à une même personne.
Oui, c'est bien ça. Ouais.
D'avoir une variabilité dans les sources et de questionner à qui je délègue. Est-ce que je délègue à une personne qui s'y connaît ou pas? Est-ce que je suis en train de déléguer plein de sujets à une même personne? On voit par exemple ce qu'on appelle des toutologues, des personnes qui sont expertes en tout, qui peuvent vous donner leur opinion sur le réchauffement climatique, les neurosciences, les médias, la génétique, les OGM, les traitements contre le Covid, les traitements pour mincir, etc., etc. Et en général, si quelqu'un a l'air d'être un expert de tout, peut-être qu'il est expert de rien.
Ouais, c'est très intéressant ce que vous dites. Savoir faire confiance, au fond, faire confiance pas aux mêmes personnes au même endroit, et en fonction des champs, faire confiance à différents types de médias, ça permet aussi de reprendre un peu le pouvoir sur son existence, et peut-être d'avoir cette distance, de pas être comme ça dans le flow, pas plugger comme ça, et de se dire, voilà, pour cette question-là, je vais là, pour cette autre question, je vais là. Et il n'y a jamais un moment où on peut se faire confiance vraiment à soi?
Si, bien sûr, on peut se faire confiance déjà quand il n'y a pas un enjeu très important. Genre, encore une fois, se tromper, c'est très important. Les vertus de l'échec, c'est quelque chose qui est assez utile. Du coup, des fois, j'ai besoin d'apprendre et du coup, j'ai besoin de me tromper. Donc, je peux me faire confiance quand il n'y a pas un enjeu énorme. Je ne suis pas obligé de tout le temps aller déléguer, aller checker les experts si je veux faire tout et n'importe quoi. Des fois, je m'y connais. J'ai déjà une expérience passée et dans ce cas-là, je deviens un peu moi le garde-fou des autres. C'est-à-dire, je vais dire aux autres, faites-moi confiance sur ce sujet. Vraiment, pour moi, le raisonnement critique, c'est pas penser par soi-même, c'est penser contre son cerveau. Et surtout, c'est être les garde-fous les uns des autres. Donc moi, je vais être le garde-fou des autres sur des sujets que moi, je connais. Peut-être les neurosciences, une partie des neurosciences, peut-être la psychologie, peut-être les jeux vidéo, peut-être, je sais pas, les casse-têtes. Vous allez être mon garde-fou sur... Je sais pas, jouer au piano, la philosophie, l'écriture de bouquins, etc., etc. Et du coup, ça devient une sorte d'une vraie sagesse de la foule, où l'espèce peut nous entraîner.
Penser contre son cerveau, voilà une belle idée. On va la méditer en écoutant cette chanson. C'était Parcells, le morceau Free.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Nous retrouvons Albert Moukaber et nous réfléchissons toujours à notre cerveau qui nous joue des tours. Vous avez eu cette phrase très étonnante avant la pause musicale. Il faut parfois se méfier de son cerveau au fond. Et d'ailleurs, ça m'inspire le souvenir d'un des passages de votre livre, Votre cerveau vous joue des tours, où vous citez Gaston Bachelard qui écrit la chose suivante. Le cerveau est l'obstacle à la pensée scientifique. Il est un obstacle en ce sens qu'il est un coordonnateur de gestes et d'appétits. Il faut penser contre le cerveau. Expliquez-nous un peu ça.
Penser contre son cerveau, c'est justement ne pas croire toutes les pensées qui me viennent en tête et les faire passer un peu par ce filtre dont on a parlé un peu, notre métacognition, les pensées qu'on a sur nos pensées, et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que je me dis, tout ce que mon cerveau me dit. J'ai besoin d'aller un peu contre
la vérification, la confirmation, c'est à chaque fois que j'ai une intuition, que j'ai une émotion, que j'ai une pensée. Il faut se méfier de sa rationalité. Il faut se méfier, pas juste, je suis contre la division de, il faut se méfier de ses émotions, de ses intuitions, il faut faire confiance à sa rationalité. Quelque part, penser contre son cerveau, c'est penser contre sa rationalité. C'est ne pas tomber dans ce piège un peu de vanité, que ma rationalité, mon raisonnement logique est parfait, du coup, c'est à ça que je devrais faire confiance. Non, absolument pas. C'est de penser contre soi-même. Et du coup, penser contre soi-même, ça peut être grâce aux autres, ça peut être grâce à l'objectivation dans l'expérimentation, dans la méthodologie scientifique, etc., etc. Mais c'est très important de réaliser que je suis pas tout le temps digne de me faire confiance à moi-même. Et paradoxalement, ne pas se faire confiance, c'est pas ne pas avoir confiance en soi. J'ai quelque part, j'ai besoin d'avoir confiance en moi pour me permettre de ne pas me faire confiance.
Ouais, c'est bien. C'est à se demander si vous êtes cartésien ou pas cartésien. Cartésien parce que vous faites confiance à l'esprit ou cartésien parce que vous doutez, ou alors pas cartésien du tout parce que vous voulez vous en méfier.
Je te pencherai vers plutôt pas cartésien.
Pourquoi?
Parce qu'il y a cogito, comme si c'est...
Je pense donc je suis.
Comme si c'est supérieur, alors que je suis pas vraiment sûr. Je pense vraiment qu'on a besoin... Il faut tout le temps réinscrire l'humain dans...
Et puis les autres.
Dans les autres, exactement. Dans le collectif, dans le groupe, dans la situation socio-économique, dans la culture, dans le pays, surtout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Je pense que Descartes, des fois, fait abstraction. De ça, se focaliser énormément
sur l'individu. Vous avez raison. D'ailleurs, il suffit d'écouter tous ensemble ce matin la phrase de Descartes, je pense, donc je suis. Il n'y a pas beaucoup de place pour l'autre dans cette affirmation. C'est très beau, en fait, et aussi très simple dans ce que ça dégage comme direction. Par exemple, si j'ai une question économique, j'ai repéré un économiste que je trouve, en lequel j'ai confiance. Il y a une question sociétale, une question sur le sport de haut niveau. Ça peut être très intéressant de se dire chacun, voilà, il y a ce site-là, ce journal-là, et de diversifier, comme vous le dites très bien, les lieux en lesquels j'ai confiance. Maintenant, vous avez souvent dit, il faut savoir dire je ne sais pas, suspendre son jugement, savoir ne pas avoir une opinion sur tout. Mais pourquoi, au fond, c'est si dur de dire je ne sais pas? On l'a tous mesuré, cette difficulté.
Je reprends un peu votre super introduction, c'est ce cri de l'opinion. Et aujourd'hui, si je reprends l'idée de l'animal social que nous sommes, des fois, créer cette opinion me permet de créer une identité, de créer cet endogroupe dont on a parlé, de dire je fais partie de ce groupe-là, je fais partie des gentils contre les méchants, je suis pas un mouton, etc. Et quelque part, ça devient une sorte d'affirmation de soi. Je vais puiser mon estime de moi, de mon affirmation d'une opinion. Alors que quand je dis rien, c'est comme si je suis un peu mis à l'écart. Et on peut penser aux réseaux sociaux, mais bien avant les réseaux sociaux, il y a toujours eu ce besoin. Et je pense que c'est une sorte d'injonction. On va nous poser des questions sur des sujets qui sont de plus en plus techniques, par un effet quasiment mécanistique. Je sais pas, je vais au supermarché, il y a les fruits bio et les fruits pas bio, les fruits sans OGM, alors que OGM, organisme génétiquement modifié, c'est un sujet hyper technique. La génétique, c'est pas quelque chose qui est facile. Du coup, on est en train de me demander de me positionner sur des sujets très techniques que par définition je ne maîtriserai pas. Sauf si j'ai fait des études de génétique, ce qui est quand même assez rare, on va dire. Et donc, on nous demande d'avoir des postures, des opinions sur des choses qui souvent aussi ne sont pas actionnables. Le nucléaire,
Même les énergies fossiles. Ouais. Tout le monde en parle tout le temps, mais si on demande aux gens une définition, c'est pas facile.
Hein. Oui, exactement. Alors qu'on va en parler, on s'approprie ce sujet.
Mais on a envie de prendre position. Et d'ailleurs, quand on vous entend, on comprend bien le conflit. Il y a d'un côté une prise de position qui assume une fonction identitaire, et j'en ai besoin. Et de l'autre côté, ce pourquoi vous militez, une sorte de sens critique et puis aussi de scepticisme. Mais c'est dur. Hein. On voit bien qui va gagner.
C'est dur, oui.
Et surtout avec les réseaux sociaux.
Justement, parce que il y a d'un côté, il y a une posture qui exprime et de l'autre, une posture qui n'exprime pas. Et du coup, quand je m'exprime pas, j'investis pas le lieu. C'est très difficile d'investir un espace en se disant, je m'exprime pour dire, ne vous exprimez pas. C'est un peu paradoxal au lieu de...
Mais vous savez que ce que vous dites là, je m'exprime pour dire que je ne m'exprime pas, c'est pour moi la doctrine philosophique la plus radicale de toutes, et c'est la doctrine sceptique. Les sceptiques de l'Antiquité représentent pour moi les philosophes les plus puissants, parce qu'ils trouvent la force folle et libératrice de dire « je ne sais pas ». Mais quand même, qu'est-ce que vous avez à donner comme conseil à des gens, par exemple des ados qui vont être aujourd'hui invités sur les réseaux sociaux, sur certains réseaux sociaux, à prendre position tout le temps dans des bulles d'entre-soi, pour exister au sein du troupeau, sur d'autres comme Twitter, d'attaquer les autres à partir d'une opinion? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour les aider à se libérer de ça?
Alors la première chose, c'est de ne pas être attaché à leur opinion, mais peut-être être attaché au raisonnement qui les a menés à une certaine opinion. Ah oui, parce qu'au final, je vais me tromper. Il n'y a aucune chance que j'ai des opinions. J'ai probablement, moi, des croyances en des choses qui sont des fake news. Sans doute, je crois des choses qui sont probablement très fausses. Ce serait complètement absurde que je me dise que toutes les pensées que j'ai dans mon cerveau, qui constituent mon être, sont vraies, et je les ai vérifiées une à une. Mais quand je suis attaché à une opinion, en tant qu'opinion, si quelqu'un l'attaque, je vais vouloir la défendre. Elle est identitaire, comme vous étiez en train de dire. Alors que si je suis attaché à un certain raisonnement, je vais peut-être promouvoir un peu de flexibilité mentale. C'est-à-dire, s'il y a de nouvelles informations qui arrivent, je vais peut-être avoir plus de chances de me dire « Ok, tiens, je vais lâcher ce truc, parce que c'est pas à ça que je suis attaché, et changer d'avis. »
Sauf que là, vous allez avoir des gens en face qui vont vous dire « Ouais, tu changes d'avis, tu retournes ta veste. »
Et c'est là où je dois puiser quelque part, on revient à cette notion de confiance de soi versus la confiance en soi, où je dois puiser mon estime de moi, pas de mes opinions, mais de mon raisonnement.
C'est très humaniste, et c'est d'ailleurs ce à quoi vous travaillez, j'imagine, dans votre laboratoire Kiasma. D'ailleurs, comment on peut le rejoindre, ce laboratoire?
Alors, si on est intéressé? C'est un collectif, on fait plusieurs choses, et on est sur www.kiasma.co.
N'importe qui peut s'inscrire pour aller réfléchir avec vous sur comment on réfléchit.
On organise des événements publics, ouverts, gratuits à tous. Là, on était en suspension parce qu'il y avait Covid, mais sinon, oui, tout est gratuit, on organise souvent des choses.
Ça doit être génial comme expérience. Surtout, c'est de la pensée collective aussi.
Oui, toute l'idée, c'est vraiment, souvent on fait une sorte de mini-conférence au début, après on organise un débat, mais le but du débat, justement, c'est pas d'avoir raison, mais c'est d'exposer quels sont les arguments qui peuvent étayer une opinion ou une autre. Et les débats peuvent être des sujets qui peuvent être très chargés, ou des sujets qui... Le but, c'est vraiment de questionner comment est-ce qu'on réfléchit, comment est-ce que cette flexibilité mentale fonctionne, comment être plutôt attaché à un raisonnement. Et c'est des débats un peu comme formels, mais les débattants sont des personnes du public, et les juges, c'est des personnes du public aussi. Et le but, c'est de comprendre un peu comment est-ce que je peux être en désaccord? Parce que le but, c'est aussi de savoir créer le dissensus. On est tout le temps en train d'essayer de créer du consensus, mais c'est important de savoir être en différence d'opinion. Une fausse conception sur le raisonnement critique, souvent que j'entends, c'est que si on était tous des raisonneurs critiques, on penserait tous la même chose. Mais c'est pas vrai. Le but, c'est pas d'avoir une sorte de la fameuse pensée unique. On peut avoir tous les deux un raisonnement critique et être en désaccord parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, parce qu'on n'a pas le même vécu, etc. Mais sans avoir des arguments quelque part fallacieux qui étaient nos opinions. Et dans ce cas-là, on les présente à la place publique et on voit qui est plus persuasif. Mais pour moi, c'est beaucoup plus sain quand on a des désaccords d'opinion avec des arguments sains et qu'on présente à tout le monde et on voit qui est plus persuasif que quand on a des désaccords à partir d'arguments qui sont fallacieux. Et du coup, on n'a plus accès à ce socle commun de réalité, ce qui peut déchirer une société au lieu de faire en sorte qu'elle collabore dans ce dissensus. Du coup, à Kiasma, on est intéressé par comment créer des dissensus, mais qui soient sains.
Et vous avez d'ailleurs aussi beaucoup... c'est très intéressant quand on vous écoute, parce qu'on rêve que ça se répande, cette attitude. Là où les gens sont accrochés à leurs opinions parce qu'elles permettent de signaler une identité, vous vous proposez de dire la question n'est pas ce que je pense, mais comment j'en viens à penser ce que je pense, dans quelle histoire ça s'insère, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et il y a aussi quelque chose que je vous ai entendu développer par ailleurs, qui est le besoin de reposer aussi son cerveau pour qu'il soit plus efficace. À ce sujet, je voudrais vous faire réagir à ce son et savoir ce que vous en pensez.
J'ai fait ma thèse sur les troubles anxieux, donc le stress, le burn-out, etc. Cette notion d'opposer les vacances versus le travail est en général pas une bonne chose. C'est-à-dire, imaginez que moi je vous dis, moi je vais plus dormir. Et chaque début du mois, je vais dormir une semaine et puis pas dormir pendant 3 semaines. Ou bien moi, je vais plus manger. Chaque début du mois, je vais bouffer 15 kilos et puis ne plus manger pendant 20 jours. C'est comme ça qu'on est en train de faire avec notre effort. On se dit, je vais travailler. Et en juillet ou en août, je vais prendre 2 semaines où je fais rien. Et puis je rentre à la rentrée. Le mieux, c'est d'essayer de trouver une manière de reposer et d'utiliser son cerveau au quotidien.
Alors voilà, Albert Moukébert, j'ai choisi de vous faire réagir à votre propre voix, parce que nous sommes en plein été et que justement les gens en profitent pour se reposer. Vous le leur reprochez ?
Au contraire, je pense que on peut se reposer en été, mais ce serait pas mal aussi de se reposer en permanence tout au long de l'année.
Alors comment on fait ?
En faisant rien, justement en sortant de cette notion de, par exemple, je vais me reposer pour être plus efficace. Non, de sortir de cette vision en permanence. Je pense que c'est là où c'est important de inscrire les idées dans un contexte, mais je pense qu'on est dans une culture, à cause de systèmes économiques, de culturels, etc., méliorative. Et on veut tout le temps être plus performant, fonctionner mieux, être en meilleure santé, être plus performant, être plus efficace, etc. Et cette pression de performance, paradoxalement, je pense qu'elle réduit notre fonctionnement. Et il faut en sortir, c'est vraiment une sorte d'opinion presque politique, de vouloir tout le temps, c'est très américain, d'être la meilleure version de soi-même. Mmh. Mais la meilleure version de soi-même peut être des fois dans l'oisiveté. dans la flemme, dans... Je suis pas obligé d'être super bon dans tout ce que je fais. Je peux jouer de la guitare de manière médiocre, mais ça me fait plaisir et je vais pas essayer de m'améliorer.
Alors, reposer son cerveau, comme vous nous invitez à le faire, ça peut être aussi dire je ne sais pas. Ça peut être dire, là, j'ai pas d'opinion, mais concrètement, on fait comment à
ça
part
peut ça? Être, en fait, c'est la même tâche, la même chose, la même activité que je suis en train de faire peut être quelque chose où je suis en train de reposer mon cerveau, une pression énorme selon, est-ce qu'il y a une pression de performance derrière? Dans l'interview dont on a écouté un extrait, après, j'explique que, par exemple, j'ai des personnes qui viennent des fois chez moi au cabinet en burn-out, alors qu'ils bossent dans des centres de yoga, par exemple. Ils sont tellement dans
c'est
une...
un bon résumé de l'époque.
Oui, ils sont tellement dans une quête performative du bien-être que la pression qu'ils subissent de devoir se réveiller à 5h du matin pour faire les salutations du soleil, puis manger sainement.
C'est ça,
puis...
oui. Ça je devient, dois saluer le soleil, je dois remercier le boulanger.
Je dois être calme, je dois être zen, je dois être en
je
bonne
dois
santé.
Ne pas devoir, je dois ne pas avoir d'injonction.
Exactement, et paradoxalement, ça devient une injonction par soi-même. Dans les comportements, par exemple, alimentaires, on a quelque chose aujourd'hui qui s'appelle l'orthorexie. Donc il y a l'anorexie que tout le monde connaît, et la boulimie. L'orthorexie, c'est devoir manger droit. Je ne mange que des trucs sains, je me mets une pression énorme pour manger que des légumes bio, que des trucs, je fais jamais rentrer dans mon corps quelque chose qui est malsain, etc. Et ça devient une sorte de pression qui développe un trouble du comportement alimentaire.
Et ça rend malade, j'imagine.
Ça rend, oui, ça s'appelle l'orthorexie, c'est un trouble du comportement alimentaire où je ne me permets aucune déviation et du coup ça peut me rendre malade. Et donc dans cette quête du bien-être, dans cette dictature du bonheur, dans cette dictature de la performance, il n'y a plus beaucoup d'espace pour ne rien faire, pour l'oisiveté, pour la flemme, pour faire quelque chose mal, pour ne pas être la meilleure version de moi-même, pour... encore une fois, je peux jouer de la guitare et c'est hyper plaisant, et je peux jouer de la guitare et ça me rend malade. C'est l'approche que j'ai de la tâche.
Merci beaucoup Albert Moukébert. On n'aura pas eu le temps de dire qu'en plus d'être psychologue, clinicien, docteur en neurosciences, animateur du laboratoire Casma, vous êtes aussi magicien, au sens propre, vous faites des tours de magie. On devine que pour être magicien, il faut justement savoir peut-être comment marche le cerveau des autres. Et en guise de remerciement pour nous avoir rejoints ce matin sous le soleil de Platon, je vais essayer de résumer pour les auditeurs la philosophie de la vie qui est la vôtre et que vous avez eu le bonheur de laisser transparaître ce matin. Je dirais que vous êtes un chercheur, quelqu'un qui aime le doute. Peut-être aussi vous aimez savoir autant que vous tenir devant ce qui résiste au savoir. Est-ce à dire que vous êtes un mystique? Peut-être oui, si on appelle mystique celui qui respecte le mystère, sans croire nécessairement aux forces obscures. On a senti un véritable plaisir aussi de la recherche, et puis cette idée très belle, qui est au cœur des thérapies que vous proposez, que peut-être on peut aider les gens simplement en leur expliquant certains fonctionnements, en les aidant à se libérer de certains fonctionnements, et en faisant ce que vous avez joliment appelé de la psycho-éducation. Merci beaucoup Albert Moukébert, je recommande votre livre, votre cerveau nous joue des tours et je propose à qui a été intéressé par notre échange ce matin de s'inscrire au laboratoire Kiasma, je crois que c'est www.kiasma.fr pour apprendre non pas à penser .co pour apprendre non pas à penser car vous avez bien taclé cette idée, mais apprendre à faire confiance à soi, aux autres et peut-être aussi à choisir les bons autres. Bref, encore une fois, pour savoir faire confiance aux autres, il faut avoir une sacrée confiance en soi. Merci beaucoup, Albert Moukébert.
Merci beaucoup.
Cette émission a été réalisée par Alicia Vullot, avec à la technique Florent Bujon, à la programmation musicale Thierry Dupin, aux illustrations sonores Romain Couturier. Elle a été préparée par Estelle Gap et Aurore Juvenel. Quant à moi, je vous retrouve tous les matins à 10h dans la caverne de France Inter, sous le soleil exactement, sous le soleil de Platon.